There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de L'Aglété, de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. L'épisode du jour de L'Actu dans la Poche vous est présenté par Gabriel Taïeb.
Depuis de nombreuses années, le début de la période estivale est devenu tristement synonyme d'une hausse de l'abandon des animaux de compagnie sur la route des départs en vacances. Se tenant le dernier samedi du mois de juin, la Journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie est l'occasion de faire un point sur une situation qui ne semble pas s'améliorer dans un contexte où de nombreux refuges sur le territoire national tentent d'alerter sur la saturation de leur capacité d'hébergement et leur manque de moyens. À l'échelle locale, la Société protectrice des animaux de Bordeaux et du Sud-Ouest se veut moins alarmiste, mais reconnaît que le problème des abandons d'animaux de compagnie est encore bien loin de disparaître. Kate Larcher, directrice du refuge et de la fourrière de l'association.
Donc nous sommes la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, une association totalement indépendante et distincte, non seulement de la maison SPA qui se trouve sur Bordeaux rue Fondaudège, mais aussi de la SPA dont le siège est à Paris. L'association, donc, c'est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1965 et inscrite en préfecture de la Gironde depuis 1928. Donc c'est une ancienne association. On est totalement indépendant et on gère uniquement le refuge de Mérignac. On fait fourrière pour à peu près 240 communes de la Gironde, dont Bordeaux. Donc c'est quand même une fourrière assez importante et on fait refuge. On a une capacité d'accueil de 250 chiens et 200 chats, hors chatons et chiots.
Le Centre national de référence pour le bien-être animal estime à 200 000 le nombre d'animaux pris en charge chaque année par les fourrières et les refuges en France, un chiffre qui, selon l'association Solidarité Peuple Animal, serait bien inférieur à celui des abandons pour lesquels il n'existe pas encore d'analyse statistique précise à l'échelle nationale. Selon vous, ces estimations correspondent plutôt bien à la réalité ou sous-estiment le phénomène ?
Moi, je dirais qu'on a de plus en plus de demandes d'abandon, ça c'est certain. Après, prise en charge en fourrière, il faudrait qu'on regarde les chiffres, hein, il faudrait qu'on compare. Après, c'est un petit peu compliqué, si vous voulez, parce qu'il y a eu l'effet Covid et confinement. C'est vrai que 2020-2021, c'est des années particulières. Et l'après-confinement Covid, en fin de compte, c'est aussi un changement de fonctionnement des personnes par rapport à leurs animaux. Et on a des demandes d'abandon pour d'autres motifs. Donc, comparé, on n'a pas encore assez de recul, je pense, par rapport à une situation avant Covid et après Covid. Pendant les différents confinements et la période Covid, on a accueilli beaucoup moins d'animaux ici. Tant mieux, parce que premier confinement, on était totalement fermé, on ne pouvait pas faire d'adoption. Il y avait uniquement la partie fourrière qui pouvait fonctionner avec les restitutions d'animaux à leurs propriétaires. Les gens étant à leur domicile, ils perdaient moins leur animal. Et en plus, c'était un motif pour sortir. Donc, ils s'en occupaient d'autant plus mieux, je dirais. Ensuite, il y a eu beaucoup de télétravail. Il y a eu d'autres périodes de confinement. Donc, les gens se sont plutôt occupés de l'animal à la maison. Et puis, petit à petit, ils ont retrouvé une vie classique comme avant. Et l'animal est devenu beaucoup plus contraignant. Donc, ils les ont plus perdus, moins récupérés et abandonné aussi derrière. Il y a eu des changements de vie, des déménagements, changements de situation professionnelle, donc des abandons aussi derrière. Inside a broken clock, splashing the wine with all the rain dogs. Taxi, we'd rather walk, huddle a doorway with the rain.
Oh. Le dernier samedi du mois de juin se tenait comme chaque année la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Une date qui n'est pas choisie au hasard, car elle correspond aux premières vagues de départs en vacances dans la plupart des pays d'Europe, généralement associées à une augmentation massive des abandons d'animaux. Est-ce que c'est une idée reçue ou bien vous constatez effectivement une corrélation entre les deux phénomènes ?
Alors on ne constate plus de corrélation entre les deux phénomènes, autrefois, il y a 5-8 ans peut-être oui, aujourd'hui c'est plus le cas. Le fait de partir en vacances n'est plus un motif d'abandon. Heureusement, maintenant les gens prennent conscience qu'il y a des modes de garde, il y a des pensions qui sont adaptées à la garde pour les animaux, il y a aussi du pet-sitting à domicile, il y a des centres de vacances qui accueillent les animaux aussi, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner. Mais ce n'est pas le motif d'abandon et on ne va pas rentrer plus d'animaux en fourrière parce que c'est les vacances. Par contre, c'est vrai que les gens en vacances peuvent perdre leur animal, ça c'est un autre phénomène, mais en général, ils viennent le récupérer. Donc quand on part en vacances, si on perd son animal, il faut bien se renseigner auprès des mairies, des vétérinaires et de la fourrière de la commune. C'est important pour le retrouver.
Une récente étude menée par l'IFOP, intitulée « De l'inflation à l'abandon, les Français et leurs animaux de compagnie face à la hausse des prix », semble montrer que l'augmentation du coût de la vie pourrait mener à une hausse des abandons. Est-ce que c'est un facteur d'inquiétude pour vous ?
Oui, c'est un facteur d'inquiétude et on n'a pas le recul nécessaire pour l'évaluer pour le moment. Alors déjà, on voit qu'il y a des personnes qui se retrouvent en précarité économique et qui peuvent nous abandonner leur animal pour ce motif-là. Donc si l'inflation continue, on se dit que les personnes vont gérer moins leur situation personnelle et ça peut aussi mener à encore plus d'abandon plus tard. Un animal, en fonction de ses propres caractéristiques, c'est un être vivant, donc les coûts peuvent varier. Forcément, un animal qui aura jamais de problème de santé, ce sera juste la nourriture, les vaccins quand même une fois par an. Si c'est un chat, c'est un chien, si c'est un lapin ou un rat, ça va être des coûts différents aussi. Pour un chien, il y a souvent de l'éducation, donc ça c'est à prendre en compte, parce que ça a un coût, mais après derrière ça fait un chien qui est bien dans ses pattes, donc on a moins d'embêtement, donc c'est un investissement à long terme, mais c'est quand même important. Et puis il faut pas oublier qu'un animal peut vivre jusqu'à 15-20 ans, donc il faut aussi être prêt à s'engager sur ce nombre d'années, c'est à vie pour l'animal qu'on s'engage.
Amanda Pirois, en charge des adoptions et de la communication du refuge, nous fait visiter les lieux.
Alors, donc là, on est dans les années d'adoption, donc côté chien. Donc là, on va avoir plus d'une centaine de chiens à l'adoption actuellement, avec des chiens de tous les âges, de tous les gabarits, de tout type de race. Il y a aussi donc, nos agents animaliers qui vont s'occuper du nourrissage tous les matins et du nettoyage des allées et de la chatterie.
Bénévoles et salariés s'activent autour de nombreux box. Pour la chargée des adoptions, la priorité est surtout de trouver de nouvelles familles d'accueil ainsi que des familles d'adoption qui mesurent véritablement la charge que représente un animal.
On cherche des adoptants, mais des adoptants vraiment qui ont conscience de ce qu'est l'adoption en refuge. Et l'adoption doit vraiment être un acte réfléchi. Alors, les familles d'accueil, donc déjà on demande de remplir un formulaire pour qu'on connaisse un petit peu l'environnement de vie, où va vivre l'animal. Après, c'est des collègues qui se chargent de discuter avec les familles, de voir comment elles vont pouvoir prendre en charge l'animal, quel temps elles vont pouvoir lui accorder, comment elles vont pouvoir sociabiliser aussi l'animal, parce que les familles d'accueil ont ce rôle-là qui est très important. Et en suivant, donc, les familles d'accueil peuvent accueillir, alors ça peut être des chiens, ça peut être des chats, soit trop jeunes pour être mis à l'adoption, donc les garde un temps, ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le temps que l'animal puisse être proposé à l'adoption. Ou soit ça peut être des animaux aussi malades, en soins, qui nécessitent des soins tout particuliers avant de pouvoir être proposés à l'adoption. Et donc ces familles d'accueil, on les accompagne forcément, elles ont un suivi régulier avec les membres de notre équipe. Et après, dès que les animaux sont prêts à être mis à l'adoption, on peut les reproposer.
Places he had been, Calsardinia, Catman.
Porté par une nouvelle équipe de direction, de nombreux projets émergent au sein de l'association, qui souhaite d'autant plus s'investir pour le bien-être animal. Une évidence pour Caroline Pham, administratrice de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, qui reconnaît toutefois la fragilité de la structure sur le long terme.
Donc le premier gros chantier, c'est le refuge étant vieillissant, a besoin d'énormément de transformations, dont nous sommes en train d'essayer de construire le refuge du futur. Donc il y a un gros chantier au niveau de la création d'un parking à l'entrée du refuge de 46 places et nous sommes en train également d'essayer de reconstruire toute la fourrière avec 60 boxes. Donc ça c'est le premier gros chantier. Le deuxième gros chantier que nous avons mis et vraiment commencé à mettre en place, c'est le bien-être animal. Donc de nouveaux parcs ont été construits pour les chiens et les chats. Nous avons également décidé de passer à une seconde gamelle, donc nos chiens sont nourris deux fois par jour, le matin et en fin d'après-midi. Et nous avons également fait appel à des prestataires externes pour éduquer nos chiens. Notre gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément d'abandons de chiens qui ne sont pas récupérés. Donc sur site, nous avons un éducateur canin, mais cet éducateur canin n'a pas le temps de s'occuper du nombre de chiens rééduqués. Donc nous testons, c'est tout nouveau, on teste des éducateurs extérieurs qui viennent, des prestataires que nous payons, et qui viennent rééduquer nos chiens compliqués. Donc, on le fait avec des prestataires extérieurs que nous payons, et aussi des bénévoles, de jeunes éducateurs canins qui viennent d'avoir leur diplôme et qui ont envie de nous aider. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a 7 ou 8 bénévoles éducateurs canins qui viennent également de nous aider. Nous avons multiplié par 3 nos bénévoles chiens, ce qui permet aujourd'hui à ce que nos chiens sortent tous les 2-3 jours, et alors qu'il y a quelques mois, ils sortaient tous les 8-10 jours. Alors, en effet, nos coûts ont explosé, mais tout le monde, on est tous logés à la même enseigne, donc on a toujours en effet besoin de la générosité de nos donateurs, que ce soit des collectes, que ce soit des dons de couverture, de journaux, des dons d'argent. Bien sûr, on est toujours, on remercie toujours la générosité de nos donateurs et les coûts, oui. L'état des lieux aujourd'hui, on s'en sort quand même financièrement, mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir tenir comme ça des années. Comme on l'a dit précédemment, l'électricité, le coût de l'électricité a augmenté de 40%, l'alimentation également, nos frais vétérinaires, c'est un de nos plus gros postes. Donc en effet, à le tenter aujourd'hui, oui. Maintenant, je ne sais pas si dans 6 mois, la situation est tenable.
Merci Gabriel Taïeb, c'est la fin de cet épisode de podcasting L'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garay-Cochea, Agathe Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est L'actu dans la poche.